Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoret.
Bonjour, merci de participer à ce cours. Donc aujourd'hui, nous allons aborder en détail une notion que j'avais annoncée la dernière fois, qui va être très utile dans la description des algorithmes du calcul quantique et surtout de la correction d'erreurs quantiques. Et cette notion, c'est la notion de stabilisateur. Donc, comme à chaque fois, je rappelle que ces leçons peuvent être téléchargées à partir du site de la chaire. Nous mettons ces fichiers à jour grâce à vos corrections et vos commentaires. Donc, vous avez aujourd'hui la version papier du cours. Une fois qu'elle a été tirée, on s'est aperçu qu'il y avait quelques coquilles. Elles seront bien sûr corrigées dans la version qui va être téléchargée aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Très bien. Alors, comme je le disais, je vais expliquer aujourd'hui ce formalisme des stabilisateurs qui, pour la représentation des états d'un registre. On va commencer assez doucement avec 1 qubit, puis 2 qubits, et ça nous permettra de développer, de généraliser cette notion. Alors, aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons le plaisir de recevoir Takis Kontos, qui va nous parler de points quantiques et de ferromagnétisme, et donc d'une nouvelle proposition pour l'implémentation de ces bits quantiques dont nous parlons dans ce cours. Alors, je vais commencer cette leçon par motiver ce formalisme qu'on pourrait trouver un peu lourd au début. C'est un investissement, je dois vous prévenir, il y a un investissement. Mais vous allez voir, j'espère vous convaincre que cet investissement est vraiment rentable dans la compréhension des opérations du calcul quantique. Alors, la première motivation, c'est la difficulté de représenter les états d'un registre dès que l'on a plusieurs qubits. Et en fait, les difficultés commencent très rapidement, déjà à 2 ou 3. La représentation des états n'est pas commode. Alors, je vous rappelle que si vous avez un registre classique, mettons 10 bits, vous représentez un état très facilement en donnant la suite des 0 et des 1, donc le contenu de la mémoire de ce registre. Maintenant, un état quantique général, c'est une superposition de ces configurations, avec éventuellement des poids compliqués. Ici, j'ai simplifié, j'ai choisi que des plus 1 et des moins 1, mais les coefficients peuvent être arbitraires. Et vous voyez que, finalement, c'est la complexité de la description des états croît très rapidement, puisque déjà, avec un registre à 10 qubits, vous avez 1024 termes. Il faut donner 1024 nombres réels, ou complexes même, pour décrire cet état. Et en fait, cette complexité croît exponentiellement avec le nombre de bits quantiques. C'est ce qui fait la richesse du calcul quantique, mais vous comprenez aussi que, disons, manipuler, simplement parler des états, pose un problème. Cette difficulté, on peut la sentir très simplement avec un exemple déjà pris pour un registre à 2 qubits. Bon, si on prend un état produit, mettons ce produit d'état ici, où j'ai une superposition d'états 0 et 1 pour le premier qubit et la même superposition pour le second. Donc cet état, quand je développe, il est très simple, c'est une superposition avec des coefficients égaux de tous les quêtes. Si je change le signe de la superposition du premier qubit, vous voyez que j'introduis 2 signes moins ici dans cette somme. Et d'un autre côté, si je considère cet état où il va y avoir qu'un seul signe moins, eh bien cet état, vous ne pourrez pas le mettre sous la forme d'un produit, c'est impossible. En fait, cet état est dit intriqué. en fait, il est maximalement intriqué. Donc, vous voyez, c'est quand même assez subtil. Bien sûr, avec un certain nombre d'exemples, vous pouvez comprendre la loi qui vous permet de dire, à partir des coefficients, si un état est produit ou intriqué, mais c'est quand même subtil. Évidemment, cet algorithme va dépendre beaucoup en plus de la, du module des coefficients. Ici, j'ai pris un exemple très simple avec uniquement des coefficients plus 1 et moins 1. Donc, nécessité un peu de clarifier la situation. Il faudrait essayer de trouver un formalisme très simple qui nous permette immédiatement de reconnaître si un état est intriqué ou non. Et c'est ce que ce formalisme des stabilisateurs va faire très bien. Donc on veut non seulement reconnaître les états particuliers, mais on veut aussi pouvoir effectuer des changements de base, on veut pouvoir effectuer des rotations dans l'espace de Hilbert, c'est-à-dire transformer une base en une autre. Alors, la base standard, c'est la base dite de calcul, où on donne simplement les états classiques du registre. Chaque état classique du registre correspond à un ket. Et par exemple, lorsqu'on crée un état EPR, on va passer dans la base dite de Bell, qui correspond à des superpositions linéaires bien particulières de ces états qui sont donnés ici. Ça, c'est les états dits de Bell, pour lesquels le nombre quantique, le moment angulaire total du qubit est bien défini. Mais vous voyez qu'il y a toutes sortes d'autres bases. En fait, par exemple, il y a cette base dite de phase qui correspond à cette superposition de tous les quêtes avec ce fameux signe moins qui est distribué sur chacun des vecteurs de base. Vous voyez que dans cette base, tous les états sont représentés avec le même poids. Il n'y a que la phase du coefficient qui est spécifique au vecteur de base. Et vous voyez qu'il y a une grande asymétrie dans cette représentation parce que cette base de phase est une base d'état intriquée, tout aussi intriquée que cette base de Bell, mais elle s'écrit de manière extrêmement différente. Donc, lorsqu'on représente les bases dans ce langage des états, dans le langage des quêtes, eh bien, on n'a pas une vision très claire de ce que représentent finalement de manière intrinsèque les bases. On est un peu perdu dans les symboles. Donc, besoin de simplification là aussi. Et dernière motivation, c'est finalement les calculs proprement dits, les rotations dans l'espace de Hilbert. Comment les manipuler, comment les concevoir? Eh bien, là encore, dans le langage des quêtes, la situation est assez obscure. Donc, si on part de l'état 0, 0, donc hop, hop, avec une rotation autour de Y pour le premier qubit, on va passer dans cet état-ci, ici. Et puis, une seconde rotation autour de Y, pour le deuxième qubit, on va aboutir à cette combinaison linéaire avec que des signes plus. En fait, si on introduit un contrôle note ici, à cette étape-là, et qu'on continue à faire cette rotation, eh bien, on introduit ce fameux signe moins. Mais vous voyez que tout ça apparaît ici comme un truc qui n'est pas très extrêmement... Il faut vraiment réfléchir intensément à ce qui se passe dans ces opérations pour comprendre comment ces deux séquences ici aboutissent à des résultats différents. Voilà, donc ça c'est besoin aussi là, de clarifier la façon dont s'organisent les calculs. Alors, dans cette partie de la leçon, je vais faire quelques rappels de ce qu'on a vu la dernière fois et je vais introduire des notions nouvelles. Donc, je vais vous définir ces stabilisateurs, mais avant de le faire, il faut que j'introduise cette notion du groupe de Pauli. Alors, on part, il est bon de partir de ce qu'on appelle la matrice densité. Donc, si on a un état quantique dont je représente la fonction d'onde ici, vous savez que la matrice densité associée à cet état et la matrice obtenue de cette façon, en associant le bras et le quête conjugué de l'état, mais d'une manière générale, la matrice densité de l'état, c'est une superposition avec des poids arbitraires d'un certain nombre d'états. Et donc, avec cette matrice densité, ici, on représente toutes les situations, les états purs et les états mélangés ou impurs. Et donc cette, dans la limite où on va superposer un très grand nombre d'états, on va perdre la cohérence quantique, on va se ramener à une densité de probabilité classique. Donc, cette matrice densité générale interpole entre une situation tout à fait classique d'une distribution d'états et les états quantiquement purs. Et comme vous le savez, on peut développer cette matrice densité générale sur la base des opérateurs de Pauli, dont j'ai introduit la notation simplifiée ici. Grand X, grand Y, grand Z sont les matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z. Et l'ensemble des trois valeurs moyennes de ces matrices permet de définir un vecteur dit de bloc dont les composantes sont justement ces valeurs moyennes. Ces valeurs moyennes obéissent à une contrainte. La somme des carrés de ces valeurs moyennes doit être inférieure ou égale à 1. L'égalité est obtenue pour les états purs, qui correspond à la peau de la sphère de Bloch, et tous les états impurs auront un module inférieur à 1 et se trouveront à l'intérieur de la sphère. Donc, l'idée aussi dans les stabilisateurs, c'est de pouvoir généraliser cette idée de vecteur de Bloch à un registre à n qubits. Comment définir quel est l'objet qui va généraliser ce vecteur de Bloch? Les matrices de Pauli, nous les avons vues la dernière fois. Donc, je distingue les matrices hermitiennes d'une variante anti-hermitienne que je note ici avec des crochets. Vous allez voir pourquoi cette notation avec des crochets est puissante. Pour l'instant, là, pour un qubit, il s'agit simplement de la multiplication de la matrice par moins i. Donc c'est assez minime. Mais je voudrais insister sur cette notion que peut-être je n'avais pas expliquée très clairement la dernière fois, mais ces matrices-là sont plutôt les briques de base pour la construction des Hamiltoniens et des opérateurs de mesure. Ce type de matrice ici, c'est les briques de base pour la construction des rotations, c'est-à-dire des opérations logiques. Il faut bien distinguer qu'en mécanique, en mécanique quantique, il y a deux classes d'opérateurs, la classe des opérateurs qui décrivent les mesures, les observables, et la classe des opérateurs qui décrivent les évolutions. Voilà. On avait, la dernière fois, introduit les points cardinaux de la sphère de Bloch. Ces points cardinaux vont jouer un rôle très important. C'est la théorie des stabilisateurs. Le formalisme des stabilisateurs va généraliser cette notion de points cardinaux. On avait écrit ces états. Et ces états sont caractérisés par le fait qu'une des trois composantes des opérateurs x, y et z sont soit plus 1, soit moins 1. C'est-à-dire que ces états saturent une des coordonnées x ou y ou z. D'ailleurs, j'introduis ici, en passant, je vous signale que j'utilise un ordre qui n'est pas l'ordre alphabétique pour les opérateurs Z, X, Y. Cet ordre est en fait a été introduit par Daniel Gottesman de façon assez rigoureuse, et je suis cette convention. En fait, Z vient en premier parce que c'est l'opérateur qui décrit finalement la valeur classique du bit, et c'est pour ça qu'il a tendance à venir en premier. X vient immédiatement après pour préserver l'ordre habituel de permutation circulaire. On a X qui vient après Z et Y qui vient après X. C'est pour que les bases soient directes. Plutôt que, disons, de représenter la valeur ici par un nombre des valeurs moyennes Z, X et Y, on préfère utiliser une barre. C'est quelque chose qui va revenir par la suite. C'est l'ensemble de ces barres qui sont plus 1 ou moins 1 en amplitude vont constituer ce qu'on appelle le tomogramme du bit. Et on va généraliser cette idée de tomogramme par la suite pour un registre. Cette idée de tomogramme est très précieuse. Elle permet de donner une représentation visuelle de l'état. En fait, vous voyez là s'appliquer un principe de conservation. Il y a 6 cases ici dans ce tomogramme et finalement chacun de ces points cardinaux ici correspond à l'occupation d'une case et d'une case entièrement occupée. Il n'y a pas de case à moitié occupée. Donc vous voyez, il y a un transfert de poids d'un état à l'autre. Donc, la structure du groupe de Pauli commence par l'examen du groupe des quaternions, qui en fait est basé sur ces rotations de pi autour des axes Z, X et Y. Donc, c'est quelque chose qu'on avait discuté la dernière fois en détail. Je vais insister ici sur une notion qui va intervenir par la suite, qui est l'écriture des inverses des rotations avec ce fameux signe moins ici. Normalement, cette matrice ici, moins x entre crochets, n'est simplement que une rotation de. C'est la rotation inverse de celle notée x. C'est une rotation de moins pi autour de l'axe x. Mais vous voyez qu'au lieu d'être notée. X à la puissance moins 1, on la note moins X. C'est une rotation qui se fait d'un angle pi, si vous voulez, mais autour de l'axe opposé. En quelque sorte, le signe moins ici, dans cette notation, est détachable. On peut l'enlever de l'opérateur, le mettre devant. Et ceci joue un rôle très important dans la définition du groupe de Pauli. Donc le groupe de Pauli pour un qubit va réunir les opérateurs hermitiens et les opérateurs anti-hermitiens. Vous voyez que vous avez toutes les combinaisons possibles de x, y et z avec plus 1, moins 1, plus i, moins i. Lorsqu'on va passer à n qubits, on va garder ces symboles i, z, x et y. On va en faire des produits tensoriels. Et devant ce produit tensoriel, on mettra un de ces signes ici. Il y a quelque chose de caché derrière tout ça. C'est que dans ce groupe de Pauli à n qubits, le commutateur de deux éléments sera toujours soit plus 1, soit moins 1. Et c'est une propriété très importante. Alors, une petite remarque, donc, on va noter l'élément neutre de ce groupe de Pauli sur n qubits par la matrice I, tout simplement. Alors qu'un autre élément, un élément quelconque, va être noté par une succession de symboles pris dans l'ensemble I, Z, X et Y, et on aura un signe devant l'ensemble.
Pour le démon, de supprimer la croix par rapport
Pardon ?
Vous avez mis une croix dans la notation, l'élément neutre. Vous avez mis une croix à la page 9.
Oui.
Là,
là, ici, le symbole n'est pas très, très visible. Il y a une croix, oui, à l'intérieur du rond. Oui, oui, c'est... J'ai fait quelques recherches pour essayer d'améliorer ça, mais le logiciel que j'utilise là, pour les formules, assez bizarrement, est défaillant là, pour ce symbole du produit tensoriel. Donc, il faudra que je répare ce problème, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de le résoudre. En tout cas, voilà, bon, ça c'est juste à titre d'exemple, une matrice correspondant à un membre du groupe de Pauli sur deux qubits. La matrice ne dit pas grand-chose et on va surtout plus jamais, regarder à quoi correspond la matrice de ces éléments. Quand vous atteignez un tel nombre de qubits ici, même si qubits reste un nombre modéré, la matrice est absolument épouvantable et ne sert à strictement à rien. Alors, donc, propriété très importante là, que j'annonçais juste il y a une minute. Donc, ce groupe de Pauli est constitué de telle façon que le commutateur, ici au sens de la théorie des groupes, hein, c'est un commutateur qui ne contient pas de signes moindres, il n'y a pas d'addition ni de soustraction, il n'y a que des multiplications, ça c'est ce qu'on appelle le commutateur des éléments A et B. Et ces commutateurs sont toujours soit plus I, soit moins I. Il n'y a pas d'autre valeur pour le commutateur, c'est extrêmement... C'est la propriété fondamentale de ce groupe de Pauli. Voici quelques exemples d'opérateurs hermitiens qui appartiennent au groupe de Pauli. Et là, je voudrais introduire une notion très importante qui est que ces opérateurs hermitiens sont un petit peu comme des nombres en base 4. C'est quelque chose qui va compter énormément par la suite. Si on les écrit avec les matrices de Pauli ordinaires, ce n'est pas très visible. Vous voyez, par exemple, ici, cet opérateur plus XXX, c'est en fait le produit des matrices de Pauli sigma X sur les qubits que j'appelle ici 0, 1, 2. Ça, c'est le qubit de plus faible poids. Celui-ci, c'est le qubit de plus fort poids. Celui-ci, c'est un opérateur à un qubit. C'est un opérateur pour le qubit de plus faible poids. Donc, lorsque vous écrivez ces opérateurs dans le langage habituel, l'idée que vous avez un nombre en base 4 n'apparaît pas très clairement, mais lorsque vous utilisez cette notation positionnelle où les trous sont comblés par le symbole I, ça paraît plus apparent. Donc, je rappelle, ce premier symbole ici à droite, c'est le qubit de plus faible poids, ici le point intermédiaire de poids le plus fort, et vous avez un signe. Pourquoi base 4 ? Eh bien, parce que donc, dans cette succession des symboles I, Z, X, Y, eh bien, vous pouvez établir une correspondance avec deux bits. Donc, on peut écrire un opérateur hermitien du groupe de Pauli à n qubits en se servant d'un nombre binaire à 2n plus 1 qubits. Bit classique. Alors, la définition de ce qu'on appelle un stabilisateur est assez opaque. Vous voyez, je vous donne la définition officielle. C'est un sous-groupe abélien du groupe de Pauli qui ne contient pas moins I. Alors, je vais pas vous laisser avec cette définition. Je vais essayer d'expliquer maintenant ce que cette définition vraiment signifie pratiquement. Alors, prenons un qubit. Hein, commençons à regarder quels sont ces sous-groupes abéliens du groupe de Pauli pour un qubit. En fait, ça va être ces matrices hermitiennes, X, Y, Z, et leur inverse. Il va y avoir six éléments. En fait, ces sous-groupes, ils n'ont tout simplement que deux éléments. Ils ont l'identité, que je n'ai pas indiquée ici, et puis un générateur, qui est cet unique opérateur hermitien. Là, le problème est donc très simple pour un qubit. Et la conclusion va être assez évidente. Donc, à chacun de ces sous-groupes, vous pouvez associer un vecteur, finalement le vecteur qui pointe dans la direction indiquée par ces lettres. C'est extrêmement, extrêmement simple. Et donc, vous voyez comme ça, vous pouvez retrouver les six directions, les six points cardinaux de la sphère de Bloch. En fait, la façon d'associer un état quantique à un stabilisateur, c'est de dire que cet état quantique doit être un vecteur propre de cet opérateur hermitien avec la valeur propre 1. Voilà comment on associe un vecteur d'état à un stabilisateur. Le vecteur d'état correspondant au stabilisateur, c'est le vecteur d'état qui est un vecteur propre simultané de tous les générateurs du stabilisateur avec la valeur propre 1. Par exemple, cet état moins x ici, qui pointe vers l'arrière de la sphère de Bloch, bien, vous comprenez bien que c'est un vecteur propre de cet opérateur avec la valeur plus 1. Reprenons la sphère de Bloch et on peut effectuer donc cette traduction. On va privilégier finalement sur la sphère de Bloch les coins, les six coins en quelque sorte, qui vont constituer le squelette de cette sphère. Ces coins vont respecter la topologie de la sphère, tout en étant un ensemble minimum. Ces six états donc, que j'appelle avec cette nouvelle nomenclature ici, eh bien, représentent six états minimum qui continuent à décrire la topologie de la sphère, mais en quelque sorte... En utilisant un ensemble discret d'états. Alors évidemment, le problème, c'est sous ceci est bien gentil pour un qubit. Ça, on voit que ça va marcher très très bien, mais comment ça se généralise à n qubits? Alors pour effectuer cette généralisation, il va falloir introduire une variante de cette notion de stabilisateur qui est la notion de classe de stabilisateur. Alors, c'est une étape supplémentaire qu'il va falloir franchir. Un stabilisateur, c'est en gros un état, où on verra plus tard essentiellement, ou un ensemble d'états, mais une classe de stabilisateur, c'est une base d'état, c'est un ensemble d'états qui forme une base complète de l'espace de Hilbert. Pour un qubit, ça va être simplement la donnée des générateurs, des stabilisateurs, mais en oubliant le signe. On va, en quelque sorte, c'est une notion de classe, parce que les stabilisateurs comprenaient des opérateurs avec un signe. Jusqu'à présent, on va oublier le signe, on va se débarrasser du signe, on va réunir tous les générateurs qui ont le même signe dans une même classe. Et donc là, on passe de six états à trois classes quand on oublie les signes. Et cette opération, nous permet d'engendrer donc trois bases. Il y a trois bases orthogonales pour l'espace de Hilbert à un qubit. Et ces bases, je les représente là non pas par des vecteurs, ce ne sont pas des vecteurs de blocs, c'est des directions, si vous voulez, qui engendrent une base si on prend finalement cette direction et la direction opposée. Et on dit que ces classes de stabilisateurs vont être associées à des bases indépendantes. Alors, il ne faut pas mélanger la notion de base indépendante avec la notion d'orthogonalité. Donc, deux bases dans l'espace de Hilbert sont dites indépendantes si chaque vecteur de la première base à des projections moyennes, la moyenne des projections sur les autres vecteurs, les vecteurs de l'autre base est nulle. Donc c'est pas une notion d'orthogonalité, c'est une notion d'indépendance. Donc il y a trois, on peut montrer qu'il y a pour un qubit, il y a trois bases indépendantes, et ces trois bases indépendantes correspondent à ces trois classes de stabilisateurs. Comment ces bases sont-elles reliées? Eh bien, ces bases sont reliées les unes avec les autres par des rotations de pi sur 2. Donc, passer de la base X à la base Z c'est la base de calcul, la base X c'est les vecteurs qui sont les deux vecteurs de base qui sont alignés avec l'axe X, eh bien ça se fait par une rotation de pi sur 2 autour de Y. Cette rotation de pi sur 2, j'avais introduit cette notation dans le cours d'avant, on peut prendre une rotation de pi et l'élever à la puissance 1,5. Et vous voyez la relation assez directe. Si je prends le stabilisateur restant, ici la classe de stabilisateur restant, en quelque sorte, si je prends le Y et que je l'élève à la puissance 1,5, j'aurai la façon de passer d'une classe à l'autre. Et cette opération va être tout à fait générale. Donc voilà comment on passe d'une base à l'autre. On prend toujours, en quelque sorte, l'opérateur opposé et qu'on transforme en opérateur d'évolution. D'une manière générale, lorsqu'on va passer d'une classe à l'autre, on va effectuer une rotation dans l'espace de Hilbert, une opération dans l'espace de Hilbert, et l'ensemble de ces opérations forme un groupe, et ce groupe est appelé groupe de Clifford. Et pour un qubit, ce groupe est isomorphe, au groupe octaédral ou au groupe du cube. C'est un groupe à 24 éléments. Avant de vous le donner, je vous rappelle ici comment sont fabriquées ces rotations de pi sur 2 autour de z, x et y. C'est simplement obtenu en additionnant à l'identité la rotation de pi. Ce groupe de Clifford, ou le groupe octaédral, on peut le représenter de cette façon. Donc c'est le groupe en fait de permutation de quatre objets, qui sont les sommets d'un tétraèdre. On avait vu que ce tétraèdre intervenait dans le groupe des quaternions. Et une façon de décrire ce groupe de Clifford, c'est de dire que c'est le normalisateur du groupe des quaternions, c'est-à-dire c'est le groupe qui effectue toutes les permutations des éléments du groupe des quaternions. Pourquoi on appelle ça le groupe octaédral? Eh bien, parce que plutôt qu'un cube, ici, on peut, par une opération de dualité, si on échange les sommets et les faces de ce solide, eh bien, on va obtenir un octaèdre. Chaque vertex ici, chaque sommet ici, va correspondre pour l'octaèdre à une face. Quelque chose qui va nous servir pour les opérations sur les qubits, c'est qu'on peut engendrer ce groupe de plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de choisir les générateurs. qui vont permettre d'effectuer toutes les opérations possibles. Un premier choix de générateur, c'est de prendre la rotation de pi sur 2 autour de l'axe Z. On tourne le cube autour d'un axe vertical. Et comme deuxième générateur, on peut prendre une rotation de pi autour d'un axe diagonal qui passe par le milieu ici de deux côtés opposés pour le cube. L'ensemble de ces deux opérations engendre toutes les opérations de symétrie. Et ce H ici, ça est encore appelé l'opération de Hadamard. C'est une opération qui va échanger les directions X et Z. Et c'est une opération qui est beaucoup aimée par les théoriciens de l'ordinateur quantique, mais qui n'est pas du tout aimée par les expérimentateurs qui sont chargés d'implémenter les opérations de base, parce que cette rotation autour d'un axe diagonal, en fait, est assez compliquée à réaliser. On n'aime pas du tout cette primitive. Si vous ouvrez un livre sur le calcul quantique, vu du point de vue informatique, vous trouverez beaucoup cette opération de Hadamard. Mais si vous consultez les expérimentateurs qui font de la RMN, par exemple, ou donc des opérations sur les bits quantiques supraconducteurs, cette opération n'est pas du tout intéressante. Il y a eu un deuxième choix de générateur, beaucoup plus commode dans le langage, qui est celui de la RMN, bien adapté aux ions piégés, aux circuits supraconducteurs, qui est d'engendrer toutes les opérations du groupe de Clifford à partir de rotations de pi sur 2. Par exemple, on peut effectuer toutes les opérations du groupe en effectuant successivement donc une rotation autour de Z, de pi sur 2, ou une rotation de pi sur 2 autour de X. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Donc là, vous voyez, on est au stade d'une géométrie assez élémentaire, une géométrie dans un espace à trois dimensions. Les choses restent simples. Tout l'intérêt de ces stabilisateurs va être de généraliser ces idées à plus d'un qubit. Et on va s'exercer déjà avec, on va rester modeste pour l'instant, on va faire deux qubits. Alors, avec deux qubits, l'ensemble des opérateurs de Pauli, ça croît énormément, même si je me limite au symbole, si j'oublie les signes, si j'oublie les facteurs I, il va y avoir 16 opérateurs primaires. Primaires, là, ça veut dire que j'oublie les facteurs devant l'opérateur, comme i ou moins 1. Donc il y a l'identité ici qu'on note avec un seul symbole i, mais vous voyez, il y a 15 autres opérateurs. Alors on peut ils ne jouent pas le même rôle tous. Hein, dans la première ligne ici, j'aurai les opérateurs qui agissent sur le qubit de droite, sur le qubit de plus faible poids, ici. Dans cette colonne ici à gauche, je vais avoir les opérateurs qui agissent sur un seul qubit, mais cette fois-ci, c'est le qubit de gauche, le qubit de plus fort poids. Et dans ce groupe central, ici, je vais avoir les 9 opérateurs qui sont des opérateurs proprement à deux qubits, qui agissent sur les deux qubits simultanément. Voilà comment s'organisent les 15 opérateurs primaires. Alors, pour créer une classe de stabilisateurs, il faut que je choisisse ces symboles, ces nombres, de telle façon à se constituer un groupe commutatif. Et en fait, il va y avoir 15 possibilités. 15 possibilités. Alors, j'insiste tout de suite sur le fait que ces 15 possibilités n'ont rien à voir. Ce nombre 15 est accidentel. Ce n'est pas, il n'est pas du tout relié aux 15 opérateurs primaires. En fait, cette coïncidence entre le nombre de classes et le nombre d'opérateurs primaires n'a lieu que pour... lieu que pour les pour 1 et 2 qubits, et cette loi ne se généralise pas à 3 ou plus de qubits. Donc comment on les trouve? On verra par la suite qu'il y a une manière systématique de trouver ces classes de stabilisateurs, mais là pour l'instant j'en dresse la liste. Et la liste est effectuée par une espèce d'ordre alphabétique. Alors, je vais l'introduire ici, c'est assez important. Donc, la lettre qui vient en premier, c'est la lettre I, correspondant à l'identité. Après, il y a Z, il y a X et Y. Et là, j'ai effectué la liste des 15 classes. Chaque classe va comporter 3 opérateurs. Mais le dernier dans la liste est en fait résulte du produit des 2 précédents. C'est pour ça que je l'ai représenté en gris. Il n'est pas vraiment significatif. Si vous observez tous ces exemples, vous verrez que le troisième, c'est toujours donné par le produit des 2 autres. Donc en fait, il me suffit de 2 opérateurs pour finalement définir parfaitement la classe. Alors, cet ordre alphabétique nous conduit à choisir d'abord IZ, puis ZI, et puis vous voyez que quand on va dans la liste, on arrive à on a de plus en plus de X et de Y, et celui-ci, c'est le dernier dans la liste. C'est celui qui comporte le maximum de Y, si vous voulez. Ce qui est assez remarquable, c'est quand on fait cette liste, eh bien, on va trouver les neuf premières classes ici correspondent à des états produits. En fait, c'est très commode pour savoir si vous avez un état, si le stabilisateur ici que vous représentez correspond à un produit ou non. Eh bien, il suffit de voir si les 2 premiers générateurs ici contiennent des I ou pas. Vous voyez, si vous examinez cette liste ici, les 2 premiers générateurs contiennent toujours le symbole I, alors que dans les 6 derniers, eh bien, il n'y a pas de symbole I. Et ça, cette absence ou présence de symbole I vous indique si finalement cette base est une base d'état produit ou une base d'état intriqué. C'est ce qui est remarquable avec 2 qubits, c'est qu'une base est soit totalement produit ou soit totalement intriqué. En fait, dans ces bases ici, les états sont tous maximalement intriqués. Dans ce langage des états cardinaux, vous ne pouvez être que maximalement intriqué ou complètement produit. C'est un peu cette idée de caricature. Oui. Alors, bon, c'est une notion que, effectivement, j'aurais dû peut-être préciser. Là, je vais m'intéresser à des stabilisateurs vraiment intrinsèquement à 2 qubits, et ils vont avoir donc une taille maximum. Effectivement, il existe des. Merci de faire cette remarque. Il existe une notion annexe. On peut trouver des sous-groupes plus petits qui vont correspondre non pas à des bases complètes d'état, mais des bases incomplètes. Donc ça va correspondre à des sous-parties du groupe de l'espace de Hilbert total. Là, je recherche en fait les groupes de taille maximum, et les groupes de taille maximum correspondent en fait à un stabilisateur de taille maximum va correspondre à un état de dimension la plus faible, donc un seul état. Si je cherche un sous-groupe de taille, non pas 4 comme celui-ci, si on inclut l'identité, mais de taille 2, je vais représenter non pas un seul état, mais un groupe d'états, une sous-partie de l'espace de Hilbert total. Mais cette notion, je préfère la laisser de côté. Pour l'instant, on va s'intéresser aux classes maximum qui correspondent à des bases complètes. Alors, si on fait le compte, on a donc 15 classes, mais chaque classe va engendrer 4 états, puisqu'on peut restituer les signes. J'ai le choix du signe plus ou du signe moins devant ces deux générateurs. Et donc, vous voyez, ça fait 4 combinaisons en tout. Le signe du dernier générateur va être imposé par le fait qu'il doit être nécessairement un produit des deux premiers. Donc, il va y avoir, déjà, pour un qubit, on avait 6 stabilisateurs, 6 points cardinaux. Pour 2 qubits, on est passé tout de suite à 60. Ça a cru énormément, et cette croissance, en fait, est exponentielle. Ce petit tableau permet d'apprécier la compacité de ce formalisme. Si je donne les classes sous la forme des opérateurs plutôt que des représentations explicites des quêtes des bases, vous voyez, il y a un gain de place énorme et on gagne aussi beaucoup en symétrie. Alors, la base de départ, la base de calcul, correspond à ces opérateurs IZ et ZI. Et c'est bien normal, finalement, ces opérateurs mesurent le spin suivant la direction verticale. C'est bien les opérations de mesure ordinaire des bits. La base de Bell correspond à cet ensemble d'opérateurs de Pauli, vous voyez, qui ne contiennent pas I, ce sont tous des opérateurs à 2 qubits. Il y a une variante de la base de Bell, ici, notée I Bell, où on a en plus introduit le facteur I, ici, dans la base. Et vous voyez que ici, c'est un changement très modeste, c'est tout simplement une substitution, une permutation de X et de Y. Dans le deuxième et le troisième opérateur. Et puis, quand même, grand gain en place et en symétrie, puisque cette base de phase, là, qui est très très lourde à écrire dans la représentation habituelle, dans ce formalisme des stabilisateurs, vous voyez que c'est tout simplement ici le résultat d'une permutation des lettres sur cette base, par exemple. Donc, c'est extrêmement précieux parce que, vous voyez, poindre ici une notion très importante, c'est que cette représentation ici des bases nous indique, est très proche de la méthode, de la recette pour l'obtenir. Comme on voit immédiatement les lettres qu'il faut changer quand on passe d'une base à l'autre, et un changement de lettre, finalement, ça va être une de ces rotations de pi sur 2. Et donc, en quelque sorte, on peut pratiquement mentalement diviser les stabilisateurs les uns par les autres pour obtenir l'opération qui permet de passer d'une base à l'autre. Là, je vais introduire une notion qui est vraiment la notion centrale de cette leçon. Vraiment, je crois que ce transparent, c'est celui que je pense qu'il est celui que vous devez absolument retenir dans cette leçon. J'ai donc ces sous-groupes, je les ai donnés, là je les ai représentés sous la forme traditionnelle avec des accolades et en donnant les différents opérateurs correspondant aux sous-groupes en oubliant l'opérateur trivial, l'identité. Mais comme je vous l'avais annoncé, le dernier élément d'un stabilisateur en fait résulte du produit des premiers. Et finalement, on peut très bien l'oublier. Et à la place de cette représentation linéaire, ici, on peut substituer un tableau de nombres, de ces nombres de Pauli, en gardant les deux premiers, les deux premiers opérateurs pour deux qubits. Donc voilà la correspondance. Donc cet état 1-0, il va se représenter par ce petit tableau, par exemple. Et c'est bien normal qu'on ait IZ et ZI, puisque cet état ici fait partie de la base de calcul. Cet état ici de Bell va correspondre à ce tableau-là, qui va faire intervenir un opérateur intrinsèquement à 2 qubits. Et vous voyez, la valeur moins ici correspond à... Ça, c'est l'écriture d'un singulet. C'est un singulet de spin. Et vous savez que le singulet de spin, quand on mesure les corrélations, elles sont toujours négatives. Et ça se traduit ici par ces deux signes moins. Lorsque vous mesurez le produit des projections suivant Z, vous trouvez une anticorrélation. C'est le moins ici. Et lorsque vous effectuez la même mesure suivant X, eh bien, vous trouvez à nouveau une anticorrélation. Si vous mesuriez cette corrélation suivant Y, vous trouveriez aussi un signe moins, mais ce signe moins, en fait, il se déduit de ces deux premiers. Donc vous voyez que finalement, un de ces états de cardinaux, c'est en fait un tableau de nombres. C'est un tableau de nombres. De combien de nombres? Eh bien, chaque nombre ici pour 2 qubits a deux symboles, plus le signe, et il faut deux nombres. Et cette loi est tout à fait générale. Si vous avez n qubits, il vous faudra n nombres, et chaque nombre aura n symboles. Donc vous avez en gros un tableau de n par n symboles pour décrire l'état d'un registre à n qubits. C'est extrêmement intéressant cette remarque parce que, vous voyez, on voit la puissance du calcul quantique puisque le contenu d'un registre, plutôt qu'à n qubits, est spécifié non pas en donnant n symboles, 0 ou 1, mais n carré symboles. Donc, vous voyez bien que l'information est super extensive dans ce système. Parce que lorsque vous rajoutez un qubit de plus, finalement, vous ne rajoutez pas un symbole. Vous voyez que là, le contenu d'information croît au moins comme le carré du nombre d'objets. Donc, cette remarque est vraiment très riche de conséquences. Hein. Je l'ai explicité par cette phrase. Un registre à n qubits, si vous ne vous limitez qu'à ces états de Clifford qui correspondent à un squelette de l'espace de Hilbert, eh bien déjà, rien que pour ce squelette, eh bien un état est représenté par n nombres avec chacun n symboles. Il y a plus 1 ici puisqu'il y a quand même un signe devant chaque symbole. Pour vous montrer la puissance de cette remarque, on va pour l'instant faire une incursion dans le monde de 3 qubits, et prenons ce qui s'appelle l'état GHZ. Alors l'état GHZ, c'est la superposition de tous les spin-up, 3 spin-up plus 3 spin-down. Ah oui, alors c'est Greenberger, Horn et Zeilinger, les trois auteurs d'un célèbre article dans lequel on montrait que la violation des inégalités de Bell sur ce type d'état pouvait se faire de manière déterministe et non pas statistique. Lorsqu'on est à 2 qubits, donc on a une violation des inégalités de Bell. Enfin, on parlera de ces notions peut-être par la suite, mais donc cet état joue un rôle très important dans les expériences qui visent à montrer que la mécanique quantique ne peut pas s'expliquer avec des variables cachées locales. Si on regarde le stabilisateur correspondant à cet état GHZ, ou si vous voulez, pour faire une autre remarque, ça c'est un état maximalement intriqué à 3 qubits. Tous les états maximalement intriqués à 3 qubits sont un petit peu de ce type, GHZ. Si on regarde le stabilisateur correspondant à cet état, Il est assez large, hein, puisque lorsqu'on là maintenant il va y avoir 7 opérateurs, mais comme je vous l'avais annoncé, en fait, il suffit d'en sélectionner 3. On peut sélectionner 3 stabilisateurs indépendants, 3 opérateurs indépendants, et le choix que l'on peut faire, c'est celui-ci. Là encore, on choisit l'ordre pseudo-alphabétique. On ne peut pas, par exemple, choisir comme troisième opérateur celui-ci parce qu'on peut montrer qu'il est le produit, il est relié au produit des deux premiers. Donc, il faut le troisième dans la liste, c'est celui-ci, plus XXX. Et vous voyez que, bien d'une manière très condensée, on va décrire les propriétés de cet état GHZ. Par exemple, une propriété qui va servir énormément dans les codes correcteurs d'erreurs, c'est que les deux premières lignes ici nous indiquent que si vous mesurez le deuxième et le troisième qubit, vous devez avoir une corrélation positive, donc vous avez une parité de 1 pour le deuxième et le troisième, mesurés simultanément, et si vous mesurez le premier et le troisième, vous devez avoir la même propriété. En fait, maintenir ces propriétés de parité, c'est en fait... observer la parité va maintenir cet état tout en détectant des erreurs possibles. Donc là encore, on gagne énormément en compacité, en richesse, en signification, en codant ces états par ce tableau. Oui. Alors, oui, reprenons l'histoire. Donc, ce que j'annonce, hein, ce qui est très important, je vais peut-être, c'est tellement important que je vais l'écrire, hein, peut-être au tableau d'une autre façon. C'est un peu une paraphrase de ce transparent, mais donc classiquement, l'état d'un registre ici va être donné par donc, en donnant le contenu, par exemple, disons cet état 0, 1, 0, me spécifie l'état du registre. Ici, à la place d'une ligne de symbole, il me faut finalement 3 lignes de 3 symboles. Il me faut un tableau carré, si vous voulez. Prenons par exemple cet état GHZ. Donc j'ai IZZ, ZIZ, XXX. Et pour spécifier un état, ça c'est la réponse à votre question, il faut que je mette des signes ici. Et le rôle de ces signes est le suivant. Cet état GHZ va être un vecteur propre simultané de ces 3 opérateurs qui correspondent à ces 3 lignes avec la valeur plus 1 une fois que j'ai mis le signe correct ici devant. Est-ce que... Oui, oui. Le GHZ est un vecteur propre, vous pouvez vérifier. Si vous prenez GHZ, cet état GHZ et que vous opérez avec ces opérateurs, vous aurez cet état sera propre avec la valeur plus 1. Bon, une remarque importante, par exemple, si vous changez le signe ici, si au lieu d'un signe plus, vous prenez un signe moins, vous allez conserver ce plus ici, mais vous aurez une valeur propre pour cet opérateur qui sera moins 1. Donc cet état avec un moins ici sera décrit plutôt avec un opérateur. Il va falloir vous changer le signe dans cette dernière opérateur. Est-ce que c'est très très important, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions. Non, j'ai peut-être pas écrit assez gros. Oui, c'est 3 plus. ce que je veux vraiment vous faire saisir, c'est la puissance de cette notation qui est bidimensionnelle. On écrit finalement un état quantique par un tableau de symboles bidimensionnels au lieu d'une ligne de symboles unidimensionnels. Alors, la question que vous vous posez, c'est peut-être, mais est-ce qu'on peut comme ça avoir une idée immédiate du nombre d'états possibles ? Parce que vous pouvez dire, chaque case ici, c'est une lettre choisie parmi quatre, donc il y a deux bits par case. Donc, en comptant le nombre de cases, en multipliant par le nombre de bits et en prenant un bit supplémentaire correspondant à ces signes, je vais être capable de très facilement connaître le nombre de stabilisateurs. Alors, non, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des contraintes. Il faut que ces trois opérateurs commutent les uns avec les autres, ce qui donne des restrictions sur ces nombres. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'aurai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais vous voyez, il va y avoir un peu moins que, disons, le nombre d'états que vous pouvez calculer en faisant le compte de ces symboles va être légèrement surévalué. Alors, oui, c'est... En fait, l'état maximal... Ce qui va caractériser les états, les états produits, c'est que c'est le nombre de i, ou plus exactement, le nombre... Les états intriqués vont se... apparaître par la rareté du nombre de i. Je pense que ta remarque elle est motivée par le fait qu'effectivement, à 3 qubits, on n'a plus cette règle de l'absence des i pour les états maximalement intriqués. Mais en fait, quand on fait la liste des stabilisateurs, il y a toujours un nombre en quelque sorte minimal de i pour les états maximalement intriqués. Le nombre de i, finalement, va donner le degré d'intrication. Bon, là, pour un état maximalement intriqué, il y aura quand même deux i qui resteront. Mais on peut effectuer très facilement ce classement. Donc, vraiment, pour résumer, le stabilisateur peut être vu comme une table de valeurs, non pas en donnant la valeur des bits individuels du registre, mais en donnant les valeurs de certaines corrélations. Et ce qui est très intéressant, c'est que le nombre de bits reste constant quand même, puisque une description classique du registre fait intervenir 3 bits, mais qui sont la valeur locale de chacun des bits du registre, la description quantique d'un registre intriqué fait intervenir aussi 3 bits, mais qui sont décrits par des corrélations qui peuvent être sophistiquées. Donc là, ici, on a le premier bit, on l'a mis dans la valeur plus 1 de cette corrélation, ZZ. Le deuxième bit, on l'a mis dans la valeur de cette corrélation ZIZ. Et le troisième bit, on l'a mis dans cette corrélation à 3 corps du produit des opérateurs suivant X. Donc vous voyez qu'en termes véritablement d'information qu'on peut extraire de cet état, on n'a pas changé. On avait, classiquement, on avait 3 bits. Cet état ici contient aussi 3 bits classiques, en quelque sorte, mais ces bits sont délocalisés. Ils sont répartis spatialement. L'encodage n'est plus local. On a réussi à mettre 3 bits dans ce registre, mais ces 3 bits ne correspondent pas à la valeur, un état bien particulier pour un objet. Ils ont été, en quelque sorte, répartis spatialement. C'est ça que ces tableaux de nombres expriment. On a un tableau carré, mais classiquement, on ne peut en extraire toujours le même nombre de bits que classiquement. Mais la particularité, la nouveauté, c'est que ces bits sont délocalisés. La puissance du calcul quantique réside dans le fait qu'on peut délocaliser l'information. Elle n'est plus portée par des objets individuels, localisés, mais par le système tout entier. Ça, c'est un petit peu la notion résumée de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vois que j'arrive à la fin de cette leçon. Juste, je vais vous présenter juste deux transparents pour introduire ce que l'on traitera la prochaine fois. On peut dresser des cartes de ces stabilisateurs qui vont nous donner des informations intéressantes de proximité. Quand on va faire une opération, on va vouloir passer d'une classe de stabilisateur à une autre, par certaines opérations. Il est intéressant de voir quelles sont les bases qui sont voisines et celles qui sont éloignées. Et c'est ce que donnent ces cartes. Vous voyez que chaque stabilisateur correspond à un triangle dans cette carte. Le triangle ici, c'est le triangle correspondant à la base de calcul. Le codage ici, c'est que la couleur grise correspond à l'état produit. Le gris, c'est plutôt ennuyeux. Les bases intriquées sont plutôt dorées ici. La base de Bell et la base IBEL, vous voyez, est connexe et n'est pas très éloignée de la base de calcul. Mais la base de phase, celle qui encode l'information uniquement dans la phase des vecteurs de base, est plus éloignée de cette base de calcul. Et ça, c'est une remarque importante lorsqu'on va vouloir l'atteindre, par exemple. Les points ici vous indiquent donc une base est caractérisée par ces trois opérateurs, mais en fait deux suffisent à engendrer le triangle. Et les deux premiers sont donnés par ces points ici. On ne voit pas encore apparaître la structure tout à fait de cet ensemble. Pour comprendre le caractère topologique assez complexe des stabilisateurs, voici une autre carte qui met la base de calcul au centre et qui vous indique que cet espace des bases est en fait un espace courbe. Si on passe d'une base à l'autre, on finit par revenir à la base de départ. Mais en fait, on peut partir dans trois directions indépendantes et on peut revenir au point de départ de trois façons différentes. Vous voyez, cette carte, c'est un peu une carte de navigation. En fait, on voit bien que les limites d'une représentation plane, ici, il faudrait amener un solide qui est en fait assez compliqué, où les triangles se recolleraient les uns avec les autres. On pourrait observer de manière plus claire ce que c'est que de tourner dans l'espace de Hilbert à 2 qubits. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.